回家回家回。No hay vida más arrastrada que la del pobre carrero, con la picana en la mano, picando al buey delantero.
Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur l'antenne d'Aligre FM pour votre émission, notre émission, Au cœur du tango, la première émission radiophonique régulière en France sur la culture du tango, et c'est sur Aligre FM, évidemment, 93.1. Une émission co-animée par Sylvain Berthaud.
Et par Nathalie Perrin.
Voilà, nous sommes ravis et je remercie tout de suite Armand Gury à la technique, voilà, qui nous fait l'amabilité d'être là avec nous pour mettre en boîte cette émission que nous espérons réussie.
Ou la mettre en onde.
Voilà.
Alors, chère Nathalie, le 29 janvier dernier, nous avions pris le temps de discuter avec Mathias Tripodi, organisateur de bal, chorégraphe, metteur en scène, un personnage, un artiste multifacette.
Oui, c'est super.
Et rappelez-vous, en parlant de mise en scène, on avait discuté de sa mise en scène de l'opéra Maria de Buenos Aires. Et En discutant, nous nous sommes dit qu'il serait important de consacrer une émission à cette œuvre composée par Astor Piazzolla sur un livret d'Orazio Ferrer, une œuvre importante dans la culture du tango. Alors, nous en avons rediscuté avec Mathias Tripodi, nous avons travaillé sur ce projet d'émission et il nous fait la gentillesse d'être à nouveau avec nous pour nous faire bénéficier de son expertise. Bienvenue Mathias Tripodi.
Bienvenue.
Merci beaucoup, ravi d'être avec vous.
Et ravi pour nous aussi. Également.
Alors, Astor Piazzolla, on en parle souvent comme le Picasso du tango. C'est un expérimentateur hors norme. Il est allé dans toutes les directions, il est allé explorer toutes les possibilités de la musique, les rythmes, le jazz. Un admirateur de la musique classique européenne, mais il l'a toujours métissé avec la culture du tango. Et puis, quand il s'est intéressé au genre de l'opéra, eh bien, il l'a adapté pour en faire une œuvre absolument unique. Hein, c'est cette operita, comme il l'a qualifié lui-même, une petite œuvre, un petit opéra, inscrit complètement dans la culture du tango. Et cette œuvre, c'est Maria de Buenos Aires. Alors, c'est d'abord un mélange de genres, hein, tango et musique contemporaine, des poèmes surréalistes chantés, des récitatifs théâtraux. Finalement, la première question que j'ai envie de vous poser, cher Mathias Tripodi, c'est comment peut-on arriver à résumer l'histoire de Maria de Buenos Aires pour nos auditeurs et nos auditrices? C'est quand même un sacré défi. Hein.
Oui, déjà, c'est une des premières problématiques et particularités de cette pièce. C'est justement qu'elle s'appuie sur une histoire qui, comme on verra plus tard, elle a été un peu accidentée dans les diverses reprises et enregistrements. Mais c'est une histoire d'une femme qui va venir des faubourgs, qui va aller vers les centres, qui va mourir et qui va voir son ombre dans une errance dans la ville même. Elle va être condamnée à ça. Et ensuite, elle va être enceinte. Et telle que la Vierge Marie, elle va attendre une espèce de Christ, qui finalement, ça va être elle-même qui renaît et à la fin de l'histoire.
C'est une histoire incroyable, hein.
Alors, donc, superbe résumé. La ville dont on parle, la ville qui imprègne l'œuvre, elle est dans le titre, c'est Buenos Aires.
Oui, disons, le personnage de Maria, il a été interprété même pour les mêmes auteurs, mais aussi pour la réception, soit comme la ville de Buenos Aires, qui est déjà la ville de Buenos Aires dans son histoire, et c'est une ville qui a eu deux fondations. Il a été initialement et construite, après détruite et construite à la deuxième fois. Mmh. Et ça fait partie de l'histoire de la ville. Mais aussi, ça fait une évocation à l'histoire du tango et oui. ses successifs morts. Donc, cette Marie, elle représente le tango, un tango qui semble mourir et qui renaît de lui-même.
Oui, alors Maria de Buenos Aires s'est créée en 1968, on le rappelle. Ce sont des années particulières pour le tango. Depuis le coup d'État de 1955, le tango est tombé en désuétude, ou tout du moins a changé de nature. Qu'en pensez-vous, cher Mathias? Est-ce que vous pourriez resituer ce contexte de la création de Maria de Buenos Aires dans l'évolution de la popularité du tango?
Oui. Disons, c'est toujours complexe parler du tango, car il y a toujours des paradoxes. Mmh. Et on dit souvent qu'à partir de 1955, c'est une date qui coïncide avec un coup d'État très important, où la ville de Buenos Aires, elle est même bombardée. Mmh. Et donc c'est un premier coup d'État assez fort qui va proscrire le péronisme. Et on signale cette date-là comme le début de la fin de cette fête des années 1940, que c'est
l'âge d'or, oui.
L'âge d'or d'un tango populaire et ancré dans les classes moyennes, où les bals sont remplis, où il y a toute une activité aussi culturelle autour du tango. Donc on parle que ça va commencer à diminuer, mais en même temps, et c'est aussi l'époque qu'on peut nommer de la vanguardia, de la avant-garde, notamment dans l'inventario del tango de Ferrer et del Priore, on signale cette période-là justement comme la vanguardia, non? C'est le début de toute une série de recherches où il y a notamment Astor Piazzolla, Horacio Ferrer, mais aussi des autres artistes qui ont essayé justement de renouveler l'imaginaire du tango. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un renouvellement, en tout cas, des populations autour du tango qui tarde à venir, et c'est ça qui crée cet effet de ralentissement.
Alors, dans cette mesure, l'histoire même de l'opéra, Maria de Buenos Aires, est-ce que vous nous avez brillamment résumé en un bref passage, finalement, ces errances, ces trajectoires de Maria qui part des faubourgs jusqu'au centre de la ville, cette mort, cette renaissance, l'âme du tango qui est évoquée, hein, le personnage d'El Duende également qui apparaît dans l'œuvre, tous ces aspects, c'est finalement une métaphore de la vision qu'avaient Astor Piazzolla et Horacio Ferrer de la culture même du tango et de son évolution.
Oui, disons, dans cette pièce, il y a une concentration de personnages assez dense. Il y a aussi un pachador, il y a aussi des psychanalystes. Et on a mentionné avant qu'on dit que Piazzolla, c'est le Picasso du tango. Moi, je dirais, je ne sais pas si c'est le Picasso, mais je dirais en tout cas qu'il est très, c'est quelqu'un de très intéressé dans son présent. Et cet intérêt pour son présent, il a amené à se rapprocher à plusieurs musiques et styles de son temps. Et au moment de vouloir faire Maria de Buenos Aires, il veut exprimer une ville de Buenos Aires contemporaine à lui. Donc, il va inclure tous ces personnages et toutes ces tensions entre les beats et les tangos. Il va justement essayer de concentrer tous ces personnages qui font partie de la Buenos Aires de son temps, disons.
Oui.
Alors, pour illustrer finalement ce premier propos autour de Maria de Buenos Aires, vous avez retenu l'ouverture finalement, en tout cas le morceau qui ouvre l'opéra. Classiquement, dans un opéra italien, dans un Verdi, on parlerait de l'ouverture. C'est une pièce qui récapitule finalement l'ensemble des thèmes qui vont être présentés dans l'œuvre. Ici, on est beaucoup plus sur une notion de prélude. Ça m'évoque d'ailleurs plus l'opéra de Ketsu de Brecht et de Kurt Weill, qui était antérieur. C'était 1930, la création de l'opéra de Ketsu. Donc cette notion de prélude avec une présentation, une exposition, tout de suite une partie très récitative, un peu obsessionnelle qui est chantée, et vous avez choisi donc la version d'origine d'Astor Piazzolla, donc l'enregistrement de 1968. Je vous propose de l'écouter tout de suite et puis on en rediscute ensuite. Thank you.
Ahora que es la hora y que un rumor de yerba mora trasnocha en tu silencio, por un poro de este asfalto yo habré de conjurar tu voz. Ahora que es la hora. Ahora que ya has muerto para siempre y van de asalto por vos mis brujas rubias a tanguear misas calientes al alba con sus largas putañías de contralto.
Voilà, nous sommes de retour. Vous êtes toujours sur Aligre FM. On écoutait Astor Piazzolla, Alevare. Et nous sommes avec notre invité, Mathias Tripodi, que vous avez déjà eu le plaisir d'entendre sur notre antenne.
Alors, c'est une ouverture surprenante. Et c'est vrai que d'ailleurs, elle ne s'intitule pas ouverture ou prélude, hein, mais Alevare, c'est-à-dire élévation. On est aussi dans quelque chose peut-être d'un peu religieux. Est-ce que c'est une eucharistie quasiment qui est annoncée dès le départ de l'œuvre?
Oui, disons qu'en termes de forme, il y a le même Horacio Ferrer dans son livre del tango. Il mentionne qu'avec Piazzolla, ils se sont rencontrés face à une création qui était un oratoire.
Oui, un oratoire. Oui.
Et un peu une cantate, un peu une comédie musicale, mais pas trop, un peu une opéra. Donc, mais c'est intéressant de nommer tous ces genres parce que ça explique beaucoup les éléments formels, déjà par rapport à cet élément de cette ouverture qui est plus un prélude, disons. En termes de choix après artistiques, comment est-ce qu'ils ont construit cette pièce-là, et en suivant plusieurs références, disons. Voilà. Donc c'est pour ça qu'après il choisit de l'appeler operita, car opéra il signifie œuvre, et eux ils ont fait une petite œuvre.
Oui,
donc
voilà.
Ça vient un peu de là. Après, le destin a fait que c'est plutôt le milieu de l'opéra qui reçoit cette pièce, et c'est devenu un peu peut-être la prétention de la pièce elle-même.
Oui.
Mais au début, il était entre tous ces autres genres qui ont été aussi travaillés ensuite par Horacio Ferrer, notamment. Il y a un oratorio à Gardel qu'il a fait, donc c'était un peu des références qui étaient dans l'air.
Il était déjà dans ce contexte-là. Mmh. Alors, vu de notre point de vue, aujourd'hui, on écoute cette œuvre, elle nous paraît profondément originale dans son temps. Elle semble surgir comme ça, tout d'un coup, comme un ovni musical. Mais est-ce qu'il y a des éléments quand même qui l'annoncent, qui la préparent? Vous disiez déjà qu'il y avait cette existence d'éléments dans l'œuvre d'Horacio Ferrer, notamment.
Disons que on a parfois cette impression de cette irruption parce que le geste de Maria de Buenos Aires, il est tellement fort, donc qui crée un nouveau horizon. Mais quand on plonge un peu dans son histoire et dans cette période, on peut trouver plusieurs autres œuvres qui ont influencé la création de Maria de Buenos Aires. Peut-être la plus forte, c'est West Side Story, qui a été créée en 1957 et amenée à Broadway en 1964. Et c'est une forme musicale très ancrée dans l'identité d'une ville.
Oui.
Et donc, ça fonctionne comme une antécédent. Après, on a dans la tradition du tango plusieurs spectacles, notamment El Patio de la Morocha, où il avait Aníbal Troilo, et dans lequel Astor Piazzolla il a fait des arrangements aussi. Ça, c'est en 1953. Et il y a aussi une petite mention qu'il fait Astor Piazzolla dans une de ses biographies, où il raconte qu'il travaillait pour un spectacle de tango, il s'est ennuyé énormément. Donc je pense qu'il y a toutes ces ennuis qui ont précédé, qui ont déclenché peu à peu cette intuition de vouloir créer une œuvre plus grande. Et il y a quand même une ambiance un peu plus large dans la scène de l'Amérique latine, donc Orfeo Negro en 1957. Un autre spectacle qui a eu lieu au Brésil, dans un local qui s'appelle Sum Sum, dans l'année 64, qui aussi, c'était un mélange déjà des chansons, des récités, Et ça, ça a inspiré aussi Astor Piazzolla. Et après aussi, il y a tous les films, disons, des années 30-40, que même si Astor Piazzolla, il essaye de faire un geste révolutionnaire, nouveau, oui, esthétiquement, ça fonctionne en tout cas comme une espèce de passé qui est là. Je ne sais pas si dans l'imaginaire de Piazzolla, mais peut-être dans celui de Ferrer. Notamment, il y a un film qui est mentionné par Blas Matamoros dans son grand livre sur le tango qui s'appelle La Ciudad del Tango. Et il évoque à la toute fin un film qui s'appelle La Ley que Olvidaron, la loi qu'ils ont oubliée. Mmh. Où justement, il y a un personnage qui s'appelle Maria, il y a une chanson qui c'est Yo soy Maria. Mmh. Mais c'est tout introduit dans une esthétique complètement différent à celle que Astor Piazzolla et Ferrer vont proposer. Mais ça reste un peu dans un horizon très vaste de références de leur époque, que peut-être ils ont motivé leur envie de créer eux-mêmes quelque chose dans cette genre.
Tout à fait. Alors vous nous avez proposé pour parler de ses origines un extrait d'une musique de film qui ouvre, d'ailleurs c'est la séquence introductive du film, on peut la trouver sur internet, et donc ça préfigure très clairement le Yo Soy Maria de Maria de Buenos Aires.
Oui, et il faudra qu'on parle après un peu plus de Yo Soy Maria, mais justement cette morceau que nous allons écouter, ça fait partie effectivement d'un film, et la chanteuse c'est Aigle Martin. Mm-hmm. Que Astor Piazzolla, il va la rencontrer autour de la création de la musique pour ce film-là. Il va avoir une grande fascination pour elle et elle était choisie comme Maria de Buenos Aires. Mm-hmm. Donc c'est pour elle que le personnage il a été créé, c'est pour elle que le personnage il a été pensé. Mais finalement, elle ne va pas faire la production par des histoires de la vie.
Il y a une découverte d'Amélita Baltar qui est extraordinaire.
Disons, il y a des histoires d'amour qui se mélangent.
Oui, on l'a senti.
Mais c'est intéressant de voir cette chanteuse. Elle était une chanteuse très importante, aussi très proche de la musique brésilienne et aussi de l'Amérique latine. Et qui a fonctionné aussi un peu comme muse inspiratrice, peut-être, pour Maria Buenos Aires.
Bon, alors on écoute à l'instant Aigle Martin, Graciela Oscura, 1964.
Yo soy Graciela Oscura. Al mundo entré descalza, forzando la puerta falsa, con padres desconocidos. Yo soy un montón de trapos, acunada por los sapos que croan en los baldíos. Yo soy Graciela que crece entre manos que castigan, entre voces tan amargas como las agrias ortigas. Yo soy Graciela la chica en las tardes doloridas. Yo soy Graciela crecida con los besos aguaneros, con las caricias tatuajes que abre torpes senderos. Yo soy Graciela mal nombre en las calles del recuerdo, en brazos del primer hombre. Yo soy. soy Graciela oscura, pero en cuartos enviciados, un motín de bocas duras me dice nombres prestados. Yo soy Graciela oscura, yo soy Graciela la oscura, oscura Graciela.
Merci Armand Gury à la technique. Quel plaisir d'être de retour sur Aligre FM 93.1 pour votre émission Au cœur du tango. Voilà, nous venons d'écouter Egle Martin, Graciela Oscura, 1964, et nous sommes avec Mathias Tripodi. Alors Mathias Tripodi, vous parlez à propos de Maria de Buenos Aires, d'un geste d'Astor Piazzolla et d'Orazio Ferrer, mais s'agit-il d'un geste artistique ou d'un geste politique ou les deux à la fois? J'ai l'impression quand même que ça touche aussi au bas-fond de Buenos Aires ou aux petites gens de Buenos Aires. Il y a ça aussi.
Disons, Astor Piazzolla, il a lui-même évoqué son lien avec la politique. C'était pas un lien avec la politique des partis, on va dire.
Oui,
il a pris une position assez distante, on va dire. Lui, il se définissait comme un musicien et son... Sa démarche, c'était travailler avec la musique, et ça, c'était son engagement, on va dire.
Oui.
Dans ce sens-là, peut-être qu'il peut rassembler un peu à la position de Borges, au-delà des différences, où Borges aussi s'est concentré dans son travail d'écrivain, et à l'opposé de Julio Cortázar, qui c'est pour nous, en Argentine, les symboles de l'écrivain engagé.
Oui.
Et Astor Piazzolla, par exemple, à son époque, il s'est différencié de Serrat, le chanteur espagnol, et justement comme une figure d'engagement politique, mais Astor Piazzolla, il était plutôt plongé dans son travail. Après, les gestes politiques, on va dire, il se joue dans son engagement artistique et créatif.
Oui, esthétique, oui.
Il faut dire que pour la création de Maria de Buenos Aires, il a vendu son appartement et sa voiture pour pouvoir produire cette pièce-là.
Ah, oui.
Oui, ça a été une ruine pour lui. Hein.
Et quand on pense que c'est les auteurs d'une opéra qui va être joué aujourd'hui, elle est jouée dans des grandes maisons d'opéra.
Oui.
Ça a été créé par les mêmes artistes, on va dire, pas de subventions, pas de,
oui.
de soutien. C'est les...
Les artistes eux-mêmes,
qui ont vendu leur patrimoine pour créer une œuvre.
Oui.
Donc quand on s'arrête un peu à réfléchir à cet geste-là, il a une charge politique très forte. C'est une déclaration d'une autonomie artistique, d'un libre choix et d'une force presque passionnelle, on va dire, par rapport à cette envie de créer.
Oui, oui. Tout à fait.
Dans l'Argentine conservatrice de l'époque, ces attaques également contre l'Église catholique, parce que le Maria de Buenos Aires, c'est quand même une contre-messe quasiment, une anti-messe, ont dû également choquer et provoquer des contestations.
À l'intérieur de la poétique de Horacio Ferrer, ça se mélange les lunfardos, il fait une sorte de néo-lunfardo, on va dire, et en essayant d'apporter une fantaisie que dans les décennies précédentes il n'était pas trop présente, on va dire. Horacio Ferrer, il essaye de donner cette fantaisie, et il y a énormément de symboles religieux qu'il essaye de trastoquer. Donc il y a un peu cette opposition entre les divins et l'enfer, on va dire, et en même temps cette opposition entre les quartiers et les centres-villes. Cette dernière opposition, elle fait partie de la poétique du tango.
Oui,
et pas seulement du tango, aussi des films, des pièces de théâtre de l'époque précédente. Et donc, mais je ne pense pas qu'il y ait une volonté précise pour froisser les gens. C'est plus une démarche de comment chercher à créer. Aussi, pour situer un peu le contexte, et il est dans l'année 64, si je ne me trompe pas, il avait eu un disque. Non, 66, un disque qui s'appelait Los 14 con el tango, que c'était une invitation à 14 poètes pour créer des tangos avec, avec des compositeurs de tango. Il a eu avant aussi la collaboration d'Astor Piazzolla avec Borges. Donc, dans l'air, il avait un questionnement, comment est-ce qu'on peut rendre plus poétique, plus littéraire les paroles du tango.
Oui.
Chacun de ces créations ont eu plus ou moins de succès. Hein. Les 14, los 14 con el tango, pas trop de succès, on va dire. Mais sûrement, dans l'esprit de Horacio Ferrer, il y a cette idée de créer quelque chose. Et des différents. Donc, l'engagement politique, je dirais, c'est cette conviction esthétique profonde qui fait que ces artistes, ils vont dans une direction sans trop la négocier.
Oui.
Alors, pour illustrer ce passage, c'est plutôt la réconciliation d'Astor Piazzolla avec l'Argentine qu'on va vous donner à entendre, parce que c'est un extrait de son fameux concert consécration absolue du maestro, puisqu'il donne un concert en 83 au Teatro Conlon, donc le grand théâtre de Buenos Aires. Il est accompagné de sa formation, le Conjunto Nove, je pense, excusez-moi de mon accent, et il y donne une pièce musicale extraite de Maria de Buenos Aires, une pièce qui a connu un grand succès, c'est Fuga y Misterio, qui a donc été composée en 1968, et qu'on écoute maintenant donc, dans cette version de 1983, une version live du concert au Teatro Conlon.
Voilà, de retour avec Mathias Tripodi, on écoutait Astor Piazzolla, Fuga y Misterio. Voilà, Mathias, hors antenne, vous vouliez faire une précision pour nos auditrices et auditeurs.
Oui, un peu continuer à parler de cette ambiance particulière des années 50-60, cette avant-garde qui traverse les tangos, mais qui traverse aussi la culture argentine, car on parle souvent de toute la musique étrangère à l'Argentine qui a envahi les marchés et la diminution des circuits populaires, mais tout en même temps, il avait une recherche, une envie d'innovation. Cette envie d'innovation, il se reflète aussi dans la danse contemporaine. C'est un détail non négligeable que la même année de la création de Maria de Buenos Aires, en mai 1968, cette même année, il avait aussi programmé à Buenos Aires un autre spectacle qui s'appelle Buenos Aires, mi ciudad, si je ne me trompe pas, Buenos Aires, ma ville, que c'était un spectacle de Anna Itelman, une grand chorégraphe argentine, d'origine chilienne, mais qui a fait toute sa carrière en Argentine. Et elle a été la première à utiliser de la musique d'Astor Piazzolla pour des spectacles de danse contemporaine. Et la même année, voilà, où Maria de Buenos Aires, elle est créée, elle se joue cette pièce qui avait été créée quelques années avant, avec aussi Oscar Araiz qui est dedans et qui participe à cette création. Et c'est une pièce qui a la musique de Piazzolla et de Rovira, qui c'est l'autre nom de la musique de vanguardia, avant-gardiste du tango. Oui. Donc tout ça, ça nous donne un peu un paysage où il avait une grande inquiétude pour renouveler les tangos, car on touchait aussi un certain épuisement de certaines formes esthétiques qui ont maturé dans les années 40. Et toute cette nouvelle génération, elle avait hâte de se lancer à de nouvelles créations.
Oui. Alors Sylvain, on insiste depuis le début sur la singularité de Maria de Buenos Aires. Pour vous, Mathias Tripodi, cette singularité et peut-être même d'ailleurs cette difficulté aussi de cette pièce, comment vous caractériseriez cette singularité de Maria?
Il y a un élément qu'on a déjà évoqué, cette histoire, que c'est plutôt un récit poétique et pas vraiment un argument qui va se construire à travers des scènes qui vont raconter l'histoire. C'est plutôt un texte qui raconte l'histoire, et pas trop les scènes en elles-mêmes, on peut dire. Et donc ça, c'est un parti pris assez poétique. Après, on a une certaine difficulté qui vient de l'histoire de cette œuvre. Elle a été créée avec plusieurs tableaux, qui après ils ont été même remaniés pendant les représentations à la Sala Planeta par les auteurs. Et après, pour l'enregistrement qui a fait Piazzolla et Ferrer, ils ont enlevé quelques tableaux pour que ça rentre dans les long plays. Voilà. Donc là, la pièce, elle a perdu quelques scènes, mais avec les consentements aussi des auteurs et du compositeur. Donc après, il y a eu là dernièrement une mise en scène qui a essayé de remettre ces tableaux-là. Disons que Piazzolla et Ferrer, ils étaient conscients d'avoir supprimé ces tableaux pour une certaine raison.
Oui.
Et après, une autre particularité, c'est cette air qui est la plus fameuse, la plus connue, José María, que Piazzolla, il n'a pas connue. Parce que Piazzolla, il meurt au début des années 90 et cette air, elle va être rajoutée à la fin des années 90. Donc Horacio Ferrer, il va utiliser la musique qui avait écrit Astor Piazzolla pour la Milonga de l'Annonciation, qui est plutôt à la fin de l'œuvre, et il va écrire les nouvelles paroles d'un air pour donner à cette personnage de Maria un protagonisme un peu plus fort.
Oui.
Donc on a cette transformation de l'œuvre. Et où on a José María, qu'on la chante, mais qu'au début, il ne faisait pas partie de la pièce, et qui donne aussi un autre paysage, un autre relief, en tout cas, à ce personnage. Donc là, c'est les problématiques propres à l'œuvre. Après, il y a des autres problématiques, et c'est comment est-ce qu'on reçoit cette œuvre, et c'est qu'on c'est qu'on projette vers cette œuvre-là.
Oui.
Parce que dans plusieurs mises en scène ou en réinterprétation de la pièce, on a mis beaucoup de clichés qu'on a associés au tango.
Oui.
Et du coup, ça met un peu en péril parfois même les propos artistiques de Astor Piazzolla et Horacio Ferrer de s'éloigner de ces clichés.
Oui, tout à fait.
Donc ça, ça crée en tout cas une situation un peu paradoxale qui dépend de la réception de cette œuvre-là. Est-ce qu'on accentue les rouges, les noirs, les talons, une danse plutôt traditionnelle, on va dire, à laquelle Piazzolla ne s'est jamais orienté, ou est-ce qu'on cherche dans une autre direction de l'innovation? Pour moi, la réponse d'Astor Piazzolla, ça sera chercher dans son propre ton. Hein,
oui.
Parce que c'était ça, le cœur de sa démarche.
Oui, le temps dans lequel on est.
Voilà, hein. et chercher de l'innovation là.
Oui.
Voilà.
Alors, cher Mathias Ripodi, vous nous aviez demandé d'illustrer cette séquence avec un enregistrement de la version que vous aviez mise en scène à l'Opéra National du Rhin.
Et pas tout à fait, mais c'est avec la Gentos, voilà.
Et avec Anna Karina Rossi.
Anna Karina que j'ai invitée, qui a eu la chance de collaborer avec Horacio Ferrer, elle est aussi uruguayenne. Moi, pour ma version, je l'ai proposé un certain changement que le directeur musical il a accepté aussi de nuancer. Ce n'était pas un grand changement, mais je tiens à cette petite variation. Mais là, on n'a pas pu partager cet enregistrement, donc on va écouter un enregistrement où Anna Karina Rossi elle est encore plus jeune et qu'elle a fait avec le même Horacio Ferrer.
C'est ça. Et donc avec Alberto Magnone au piano, c'est un enregistrement de 2012. Je suis Maria.
Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, ¿no ven quién soy yo? María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán. Y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires. Soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, traratata, le muerdo fuerte la boca, tiaratata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María. Cuando un misterio me viene trepando la voz y canto un tango que nadie jamás cantó y sueño un sueño que nadie jamás soñó porque el mañana es hoy con el ayer después. Che. De Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo.
Magnifique, vraiment sublime. On écoutait Anna Carina Rossi, Horacio Ferrer et Alberto Magnone. Je suis Maria, version de 2012. Vous êtes bien sûr à Ligre FM. Voilà, avec Mathias Tripodi. Et nous parlons aujourd'hui de cette opérita.
Alors Mathias, c'est vraiment une très belle version. Ça me ramène aussi très en arrière personnellement de faire cette émission sur Maria de Buenos Aires. J'étais présent en 2003, c'était au Théâtre National de Caen. C'était la première recréation en France depuis 50 ans, je crois, et de cette œuvre. C'était en présence d'Horacio Ferrer et c'était une mise en scène peut-être un peu traditionnel d'Alfredo Arias. Sandra Rumolino assurait la partie vocale. Elle avait remplacé au pied levé la chanteuse qui était initialement prévue et qui était défaillante. Et donc 2003, effectivement, ça a été le point de départ de nombreuses mises en scène. Vous avez recréé donc à l'Opéra National du Rhin une version progressiste, on va dire.
Non, bon, disons déjà aussi qu'il y a eu le travail de Gidon Kremer en 1998, qui a donné lieu à un disque et qui a été un grand geste, en tout cas pour les milieux lyriques et classiques, pour redécouvrir cette œuvre. C'était vraiment, en tout cas, un moment clé pour la réinstallation de Maria de Buenos Aires dans les programmations.
On peut peut-être resituer Gidon Kremer, qui est un immense violoniste, hein, une sonorité très particulière, très belle, grand chef d'orchestre, et qui a œuvré pour soutenir la musique d'Astor Piazzolla.
Oui, il était un admirateur.
Un fervent admirateur, un soutien.
Tout à fait.
Il est vraiment intervenu en permanence pour mettre en valeur la musique de Piazzolla.
Et ça vient un peu à l'histoire de ma mise en scène, car quand je suis sollicité justement pour l'Opéra National de Rhin, qui était dirigé à l'époque, l'opéra, par Eva Kleinitz, qui elle avait travaillé avec Gidon Kremer et qui avait été marquée par cette petite opéra. Et donc à ce moment-là, quand j'ai fait cette création, et ma mise en scène, voilà, j'essayais en tout cas de la rendre un peu plus actuelle. Et ce choix d'actualité, il est venu surtout dans les choix du personnage qui faisait El Duende. Donc j'ai choisi un chanteur de tango contemporain, très ancré dans les milieux de Buenos Aires, Alejandro Guyot.
C'est quoi El Duende?
El Duende, c'est un personnage, on va dire, fantastique, on va dire. Mm-hmm. C'est une figure errante qui transite dans l'œuvre. Mm-hmm. Et qui était très associée à une manière de parler très comme une oratoire, on va dire, de Horacio Ferrer, avec un style de Horacio Ferrer qui s'est lié à l'art de la déclamation.
Oui, tout à fait.
Et du coup, dans ma mise en scène, j'ai essayé justement de changer ça et ramener un chanteur qui a une manière de parler beaucoup plus contemporaine, justement pour faciliter l'écoute de ce texte aujourd'hui. Et après, voilà, c'était une mise en scène basée sur la danse. Donc, j'ai fait le choix de mettre aussi l'orchestre dans la fosse et pour pouvoir mettre en valeur voilà, les danseurs sur scène et une autre manière de faire un récit autour de Maria.
Parfait. Alors, c'est tout naturellement qu'on va écouter Gidon Kremer avec son ensemble, hein, la Kremer Atta Musica. C'était quand même un jeu de mots. Voilà, on est en 1998 et la pièce que vous avez retenue, c'est Allegro Tangabile, c'est-à-dire une pièce allègre qui peut se danser, ce qui est quand même assez étonnant chez Piazzolla. On va voir si elle est vraiment dansable. Je pense qu'on l'aborderait avec plaisir sur un bal une prochaine fois. On écoute. Thank you.
Voilà, de retour, nous écoutions Gidon Kremer, Cremarata Musica Allegro Tangabile, 1998.
Nous sommes toujours au cœur du tango sur Aligre FM.
Bien sûr, alors nous sommes avec Mathias Tripodi, pardon, Maria de Buenos Aires est dans ma tête, avec Mathias Tripodi que vous connaissez bien. Alors Mathias Tripodi, on a évoqué les différentes approches passées de scénographie autour de Maria de Buenos Aires. Avant de nous quitter, puisque la fin de l'émission approche, il est peut-être possible de parler de nouvelles approches. Quelle est l'actualité, quel est le futur de cette opérita Maria de Buenos Aires, Mathias Tripodi?
Disons, c'est l'œuvre qui a le tango à proposer pour les milieux lyriques et opéristiques. Mm-hmm. Donc je pense qu'avec l'intérêt du tango qui est dans notre temps et la curiosité qui continue à persister autour de cette culture, et ça va rester quand même une référence importante. C'est une pièce que maintenant, presque chaque année, il y a des propositions, soit une reprise ou deux dans le monde entier. Et donc je pense qu'elle a encore beaucoup de vie. Après, peut-être il y aura certaines versions qui vont se positionner un peu plus ou moins, et peut-être, en tout cas je l'espère fortement, le milieu du tango il va réussir à élargir l'offre des pièces pour ces milieux, car l'opéra et le tango ont beaucoup de points en commun. Oui. et des pièces qui puissent adresser à ces publics et il me semble tout à fait pertinente.
C'est peut-être pour ça que vous avez choisi comme dernier morceau une pièce qui fait encore la jonction entre le répertoire très classique, celui de la messe, et le tango.
Oui, tout à fait. En me questionnant quelle est la représentation plus actuelle, ou récente on va dire, peut-être pas actuelle, mais récente d'une pièce qui a voulu avoir une ambition forte et qui a aussi eu une grande réussite, et pour se positionner, et pour parcourir le monde, j'ai pensé justement à Martin Palmieri et sa Misa a Buenos Aires, ou Misa Tango, et que c'est une œuvre chorale, voilà, qu'il a créée, même sollicitée par son propre corps, je pense, et qui c'est une pièce, je trouve, très 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 riche, et qu'aujourd'hui elle peut en tout cas donner une direction esthétique intéressante pour voir les tangos autrement.
C'est une pièce très intéressante, composée en 95-96, qui utilise finalement les rythmes, l'instrumentation, les styles mélodiques du tango nuevo, tels que les avait définis Piazzolla, et en les calant finalement sur la structure traditionnelle de la messe, avec des paroles en latin.
Oui, tout à fait.
Et donc, c'est une version que vous nous avez proposée, une interprétation de 2018 avec les chœurs de la radio de Cologne. C'est sous la direction de Mariano Chiarini avec le Minguet Quartet, Vilena au bandoneon, hein, Victor Vilena au bandoneon, et une sopraniste, hein, il y a une voix de soprane solo également dans cette pièce, Marie-Louise Dressen. Évidemment, comme c'est souvent l'habitude pour cette pièce, on a le compositeur lui-même qui est au piano. Martin Palmieri est au piano dans cette version. Vous avez choisi donc la deuxième partie du credo. Il y a une raison particulière?
Oui, c'est simplement j'aime beaucoup ces passages.
Voilà. Je comprends très bien, c'est vraiment un coup de cœur.
Bon, eh bien, nous touchons à la fin de cette émission. Nous vous remercions beaucoup, Mathias Tripodi, d'être venu. Et voilà, ça n'est que partie remise. On espère bien vous entendre de nouveau ici avec nous. Merci d'avoir partagé avec nous ce Maria de Buenos Aires, pièce extraordinaire, toujours novatrice. Alors, on va remercier les auditrices et auditeurs de leur fidélité, parce que ça marche bien, cette émission. Voilà, et on rappelle que vous pouvez écouter tous les podcasts sur Aligre FM et la première émission dans laquelle était venu aussi Mathias Tripodi, qui marche très très fort. Voilà, alors on se dit à la semaine prochaine. Un grand remerciement à Aligre FM. à Mathias Tripodi. Merci Mathias, à très bientôt.
Merci beaucoup et une grande pensée aussi à tous les artistes avec qui j'ai partagé la création avec l'Opéra National de Rouen.
Et ben voilà.
Et on écoute Missa Buenos Aires 2018 de Martin Palmeri.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.